Bienvenue à tous sur l'émission Route 66, Radio RDL 103.5 FM avec Jean-Luc et David.
Et pour cette nouvelle émission, nous repartons en voyage avec cette fois-ci le chanteur-guitariste français d'origine algérienne, Amar Sundi, qui vient de sortir un nouvel album, Sadaka, qu'il nous présentera d'ici quelques minutes, tout comme l'ensemble de son blues, dit blues sahraoui. Mais nous partons tout de suite dans une toute autre direction, à savoir la Floride, avec l'un des meilleurs groupes de blues actuels. Je les adore, ils ont été signés par le label Alligator. Il s'agit de J.J. Gray and Mofro, que nous retrouvons tout de suite avec le titre phare de leur dernier album qui s'appelle Orange Blossoms. Et bien le morceau est tout simplement celui qui donne son nom à l'album, à savoir Orange Blossoms, J.J. Gray and Mofro. C'est parti pour une heure de musique du blues au sens large du terme.
Avant, tout allait bien. C'était si bon avec Zee. Mais voilà, Zee a disparu. En un clin d'œil, Zee a disparu. Aidez-nous. Aidez-nous à trouver Zee. We'll be right back.
Mississippi Joe, c'était les Blues Power Band, un extrait de leur album Apparaître, l'album Z, mais où est donc passé Z? Vous aurez la réponse d'ici quelques semaines ou quelques mois lorsque le disque sera dans tous les bacs des bons disquaires. Le moment est venu tout de suite d'évoquer ce chanteur guitariste d'origine algérienne mais qui vit depuis presque toujours en France, à savoir monsieur Amar Sundi, qui nous revient avec un nouvel album qui s'appelle Sadaka et qui sera également en concert dans l'Est de la France au début du mois de mai prochain, le 7 au Dôme, à cette superbe salle de Mutzig, et le 8 mai au Kafkons d'Ensisheim. J'ai eu la chance de rencontrer Amar il y a de cela quelques jours au bar d'un grand hôtel parisien. C'est là que nous avons enregistré l'entretien qui va suivre, ce qui explique également les bruits de fond que vous pouvez entendre, tintement de verre et autres petits brouhahas sonores. Allez, le moment est venu, comme je vous l'ai dit, d'évoquer cet artiste à travers un premier extrait de son album. Ça s'appelle L'Alem, Amar Sundi, et juste après, on vous commencera à diffuser l'interview. C'est parti.
Amar, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais un petit peu revenir sur ton enfance et surtout sur ta découverte de la musique?
Alors, mon enfance, c'est dans le Sahara algérien, issu d'une famille Touareg, voilà, dont j'ai de très 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 belles images que j'ai transportées quand je suis venu en 63 en France avec moi. Et la suite de mon enfance s'est déroulée en banlieue parisienne. Dans les Hauts-de-Seine, pas très loin de la Défense, Nanterre, tout ça. Et voilà, donc j'ai fait mes études en France. Évidemment, j'avais la maladie du voyage, donc j'ai pas mal voyagé en Europe et j'avais à un moment donné besoin de retourner chez moi, retrouver mes racines. Voilà, et puis retrouver un peu le peu de famille qui me reste. Et alors, à partir de ce moment-là, ben, j'ai pris mon courage à deux mains, donc je me retrouve chez moi, donc j'en trouve pas mal de sensations, de couleurs, d'odeurs. Je dirais, c'est pas une question d'identité, mais plutôt un repère dans le temps et dans la géographie, je dirais, terrestre. Et là, je vois débarquer un mec qui se pointe en bandoulière, avec les bandeaux dans les cheveux, sac à dos, guitare acoustique. Et c'est très très marrant, puis c'est un français, et puis c'est marrant parce qu'on a conversé en français, parce que je venais de France et tout ça. Alors donc je dis, qu'est-ce que vous faites? Il me dit, ben, je vais aller Niger, Mali, Sénégal, je vais y aller à pied, je vais traverser comme ça. À cette époque, c'était très possible parce que c'était tranquille le coin, quoi. Et jouer cette guitare, et puis pour me remercier de l'accueil qu'on lui avait fait, donc il s'est mis à jouer. Donc il faisait du fingerpicking, folk et tout, et ben, la rencontre avec la musique s'est faite là, parce que j'ai vu un mec jouer de la musique comme je n'en ai jamais entendu, parce que pour moi, quand j'entendais une guitare, j'entendais une personne, et avec lui, avec ses 10 doigts, j'entendais, je sais pas, 5-6 personnes en même temps. Donc je pense que le flash a été là dès le premier jour. Voilà. À partir de cet instant, cette rencontre, ça s'est fait en Algérie.
Et c'est là que tu as commencé à te documenter, à puiser un petit peu justement dans les racines de ce que tu avais pu entendre par le biais de cette personne?
Non, je me suis acheté une guitare direct en rentrant en France et je dis, je vais faire pareil. Évidemment, j'ai pas pu faire pareil parce que il fallait un peu de métier. Et disons que le blues est arrivé un peu plus tard, une fois que je suis passé par Led Zeppelin, Rix, tout ça. Mais il a été déclencheur de tout ça, cette personne était vraiment, elle a déclenché pas mal de choses concernant la musique et l'envie de voyager à travers les sonorités. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que une fois que j'ai rencontré Sandy, justement, mon ami de toujours, lui m'a présenté, je venais un peu de la pop, du folk, et il m'a dit, mais attends, ces gens-là viennent du blues, et donc m'a fait découvrir le blues noir américain, donc Albert King, Albert Collins, Elmore James, Sonny and Slim, enfin toute la base qu'interprète la musique black américaine. Et le flash, il y a un deuxième flash, et c'est venu là. Donc dans cette rencontre avec le blues, j'ai retrouvé aussi quelques valeurs harmoniques de chez moi, quoi. Donc là, à un moment donné, il y a une soudure.
Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur tes premières armes musicales au sein de groupes? Et quel était déjà ton style musical à ce moment-là? C'était purement du blues ou tu commençais déjà un petit peu à mêler tes diverses influences?
C'était pas du blues, c'était plus, comme je disais, c'était plus Neil Young, un peu Hendrix, un peu Zeppelin, un peu tout ça, un peu Santana même. Mais tout ça était, faut savoir que Carlos Santana a démarré par du blues. Il y a beaucoup de blues dans la musique de Hendrix. Et puis la voix de Otis Redding, c'est une façon de toucher encore à cette black music et à la pop anglaise, je dirais, quoi. Mais je crois que mes premières armes, ça a été la folk music surtout, quoi. Voilà.
Et comment s'est passé après le déclic professionnel? Quand est-ce que tu as vraiment commencé à te produire dans des festivals ou sur scène, aux côtés de noms souvent prestigieux d'ailleurs?
Ben, disons que le démarrage, ça a été d'abord dans le métro. Donc voilà, à la rencontre de Sonny, tout ça, donc j'ai fait mes armes de la musique blues, hein, en dépassant tout ce qui était électrique et un peu pop. Après, je suis monté au-dessus du métro, donc j'ai commencé à jouer dans la rue, dehors. Tout ça, c'est un petit peu avant 80. Et après, j'ai connu les clubs des Halles à Paris, Châtelet-les-Halles, donc la rue des Lombards, Sunset, Baisers-Salés, Duc des Lombards. Et là, avec les jam sessions qu'il y avait de blues, je me rappelle toujours, c'était Patrick Verbeck qui faisait ça à l'époque. Je me suis beaucoup intéressé, j'ai commencé à faire des jam sessions, et à partir de ces jam sessions, on m'a dit, ça serait bien que tu aies ton groupe et que tu viennes jouer. Et ça a vraiment démarré là, quoi. Donc, à partir de ces jam sessions, au Baiser Salé, exactement, et là, je me vois, 3 mois après, avoir une date jouée. Et j'avais pas de groupe, j'avais rien, alors imagine un peu le flip que je pouvais avoir, quoi.
En tout cas, ensuite, le démarrage a été fulgurant, puisque comme je le disais, tu t'es retrouvé sur scène, partager l'affiche avec des grands noms, tels que B.B. King, Otis Rush peut-être aussi, je crois. Est-ce que ces gens, de temps en temps, venaient vers toi, ils savaient ce que tu faisais comme musique, ils t'écoutaient lorsque tu passais sur scène, tu as eu l'occasion d'avoir des échanges avec eux?
Alors c'est très très simple, mes années de démarrage avec le groupe Amar Sundi, Baiser Salé, tout ça, j'étais très content parce qu'on rencontrait pas mal de succès pour un jeune groupe qui faisait des clubs et des festivals. Mais moi, mon souci, c'était d'aller à Chicago, et donc je suis allé plutôt vers eux à la rencontre de tous ces artistes à Chicago, et c'est moi qui suis allé les voir, c'est pas eux qui sont venus me voir. Après on s'est arrangé, et eux ils m'ont en plus après accueilli dans leur univers, de me faire partager, de me faire travailler, de me faire rester aux États-Unis, et donc d'où est née une complicité, une amitié artistique et humaine.
Si tu avais un souvenir qui te reviendrait de cette période, justement une anecdote, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te reviendrait, quelque chose qui t'a plus marqué, peut-être une attitude, un geste que l'un de ces personnages a eu envers toi?
Ben, ce qui me revient toujours, et je le dirai toujours à vie, c'est que quand j'ai joué avec Albert King, donc il pensait que j'étais de Chicago, et la première phrase qu'il a dit, mais comment ça, tu es de Paris? Il me fait, non mais, you must come from Mississippi. Et ça m'a marqué, totalement, parce qu'il m'a, non seulement il m'a accueilli, non seulement il n'a pas vu que j'étais pas américain, et en plus il me dit, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, tu fais partie de notre paysage. Et ça, je l'ai vraiment retenu et je le retiendrai pendant longtemps.
La suite, c'est le déclic discographique, on va dire, tes premiers albums. qui peut-être était moins orienté musique traditionnelle algérienne que le dernier en date. C'est pourquoi c'était tu n'osais pas encore justement aller aussi loin dans ta démarche.
Non, d'abord il y a un début. Hein. Le début c'est après la tournée avec James Cotton aux États-Unis. Je reviens en 90 en France. J'ai eu l'occasion d'avoir un producteur qui s'appelle Jean-Pierre Castelin qui m'a permis de faire Hogar Chicago Paris. Donc j'ai fait l'histoire de ce que j'étais Hogar Chicago Paris, dont un morceau qui s'appelle Najma. Et sous ses conseils, m'avait demandé d'avoir un morceau qui ressemblait à mes origines. Et c'est vrai que moi je viens de la musique anglo-saxonne, donc c'est très compliqué pour moi de parler de chez moi. Je n'avais aucun artiste, aucune référence, aucune base, et surtout aucune pratique. Donc moi c'était un petit peu imaginaire et un peu abstrait. Et c'est vrai que de fil en aiguille, à cause de ce morceau, et surtout grâce à ce morceau, j'ai commencé un petit peu à mélanger, mais ça a demandé du temps. Donc 8 ans après est né Homme Bleu, et Homme Bleu là il y a vraiment un mariage et un mélange des deux genres qui reste encore très 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 électrique. Mais en fin de compte, tout ça, ça a été des étapes, tous les albums avant d'arriver à notre album Sadaka, oui, je l'ai oublié, l'album Sadaka. Donc ça a été une étape, et ça a été une étape en plus pour y arriver. Genre, il y a eu Hogar Chicago Paris, Homme Bleu, et voilà, Najma, l'album avec Disky Frog, et puis Sadaka qui résume un peu l'aboutissement d'un parcours.
Et quelle est ta définition du terme Sadaka ?
Sadaka, exactement, pour moi, c'est le partage. Bon, normalement, c'est un, par définition, pour le Larousse, c'est un geste de générosité. Mais pour moi, le partage, c'est aussi un geste de générosité.
Le partage règne absolument sur tout au long du disque, puisque c'est un album sur lequel tu côtoies bon nombre de tes amis. Alors, Joe Louis Walker en premier lieu. Alors justement, je voulais juste m'arrêter sur Joe Louis, puisque ça fait un moment qu'on vous voit régulièrement ensemble. Comment l'as-tu rencontré? Est-ce que tu peux me parler sur cette histoire d'amitié?
Alors Joe Louis, je l'ai rencontré quand il faisait... Donc, je l'ai connu en tant qu'artiste déjà, parce que c'est quand même un artiste majeur dans cet univers, dans la lignée de Robert Cray, de toute cette nouvelle génération de blues à cette époque. J'ai rencontré parce que j'étais en tournée avec Albert King et Joe Louis faisait ses premières parties. Donc à force, on a fini par un peu se parler, jouer même ensemble. Et c'est vrai que lui aussi pensait que je venais de tel ou tel pays américain. Et dès qu'il m'a entendu parler avec mon anglais un petit peu... épicé, je dirais, avec son accent de bien de chez nous, quoi. Il a été vraiment séduit. Il me dit, mais comment un gars comme toi qui joue avec le maître Albert King, et en plus il dit du bien de toi, et je crois que depuis ce jour-là, il a eu un respect. Moi je l'aime parce que j'aime Albert King, c'est le maître. Bon, après tu as Joe Louis Walker, il y a une hiérarchie, quoi. Donc il m'a installé un peu quelque part avec un peu une certaine forme de respect. Et à force des concerts et des tournées, on s'est revus, on s'est rencontrés. Il y a une période, on a même collaboré ensemble. On s'est séparés depuis des années, puis on s'est retrouvés sur ce projet parce qu'il était dans le coin. Voilà.
Alors, outre Joe Louis Walker, on retrouve sur Sadaka, Eric B., Purafe, Lisa Dobby, qui sont des noms qui nous sont relativement familiers. Par contre, il y a également d'autres invités dont j'aimerais que tu me parles, notamment Khalil Shaheen et Mokhtar Samba, qui sont des gens qui, à titre personnel, me sont inconnus.
Alors, Khalil Shaheen, on peut dire que c'est le Pat Metheny égyptien. C'est un très très grand chef d'orchestre et compositeur qui joue de la guitare et qui fait beaucoup de la musique instrumentale. Et moi, je l'ai connu à ma grande période, quand j'étais au Baiser Salé dans les années 80. Lui faisait beaucoup de fusion, beaucoup de jazz, parce qu'il a fait, je crois, Berklee School. C'est vraiment quelqu'un de très, très talentueux. Il est mix moitié égyptien, moitié américain. Mais on a une affinité sur l'Orient, le Moyen-Orient, quoi, la musique orientale. Et donc c'est un ami de très 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 longue date qui m'a fait le plaisir et surtout d'accepter de participer à ce projet ensemble, quoi. Et Mokhtar Samba, il fait partie de la même génération qui a joué avec les plus grands, qui est un batteur, qui est un compositeur, qui a fait énormément la période, tous les albums de Salif Keita, il a joué avec Rido Bayon, il a joué avec Joe Zaounoul, les plus grands, quoi. Donc c'est vraiment un très très grand monsieur, et incontournable de l'univers, je dirais, et de la scène parisienne, quoi. Thanks for again and again. I'm just a prisoner, Lord, in captivity.
Ce disque, tu vas encore plus loin dans ta démarche de métissage des musiques. Oui. Alors aujourd'hui, si tu devais qualifier ton style, comment le définirais-tu ?
Mon style, ça serait tout simplement le Sahraoui blues. Voilà, j'ai réussi à unir les deux univers. Les autres albums présentaient deux facettes, je dirais deux côtés de ma personnalité tout en étant séparés. Je pense que le Sahraoui blues, il y a Sahra et Sahraoui. Donc dans le Sahraoui, il y a les Touaregs. Dans le Touareg, les Sahraouis, ce sont les gens qui sont sédentaires. Donc, il y a quand même accepté de survivre, de vivre surtout autour d'un point d'eau et être sédentaire autour d'un oasis. Donc, exister et surtout garder l'histoire. Donc voilà. Et tout ça représente effectivement le lien qui est le Sahraoui blues. Ça amène deux histoires en une seule. C'est ce qu'on représente ça, d'accord.
Et comment cette musique est-elle perçue dans cette communauté ? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'aller t'y produire ?
Je ne comprends pas le mot communauté. Moi, je suis plutôt planétaire. Je crois que la seule communauté que je connais, c'est nous, les êtres humains. Si on parle un petit peu de l'heure de l'Afrique, je crois qu'il est un peu trop jeune, il est un peu trop tôt pour savoir quel effet ça aura. Je crois que rythmiquement, il n'y aura pas de problème. Maintenant, le mélange, je ne sais pas. Mais à mon avis... à mon avis, ils retrouveront des épices qu'ils aimeront bien, quoi. Donc, affaire à suivre.
Est-ce que tu ne penses pas aujourd'hui être un petit peu pris au piège de ce que tu appelles justement ce Sahraoui blues, à savoir d'être catalogué peut-être trop blues pour les amateurs d'une musique ethnique et trop orienté world pour les fanas de blues?
Oui, mais moi, de toute façon, en deux mots, j'en ai strictement rien à foutre de ce que fait et ce que pense qui que ce soit. Je pense pas des êtres humains, hein. Attention, je parle de l'effet même de ce qu'on peut penser de moi, donc j'en ai rien à faire absolument. Ce qui est important, c'est que moi, je suis je prends la ligne du centre et je me sers, que ce soit sur les bords d'un chemin, sur le sentier de droite ou de gauche, ou de dessous ou d'en dessous, je me sers de tout ce qu'il y a de beau, et j'espère être à la hauteur de pouvoir retransmettre et retranscrire ce que je suis et ce que je ressens à travers ça. Parce que l'important pour moi, c'est pas d'être ou d'un côté ou de l'autre. La musique, justement, pourquoi on aime la musique? Pourquoi elle est sans passeport? Pourquoi elle est sans frontières? Pourquoi elle est universelle? C'est justement, à partir du moment qu'on la ghettoise, elle s'enterre automatiquement. Alors maintenant, je pense que si on fait une musique, et avec la question, qui est une très bonne question que vous venez de me poser, ben, si ça interroge d'un côté, si ça interroge de l'autre, au moins il y a interrogation, mais c'est parce qu'on a écouté des deux côtés. Peut-être que cela sera la place à une façon de voir les choses.
Maintenant que Sadaka est sorti, quels sont tes projets?
Le projet, c'est de défendre Sadaka et de l'emmener au plus loin possible à travers la scène et de communiquer un maximum avec.
Tu as encore des souhaits de rencontres, toi qui es tellement ouvert aux gens. Y a-t-il encore des gens que tu n'as pas eu l'occasion de croiser, mais que tu aimerais vraiment un jour pouvoir côtoyer?
Je ne sais pas. Franchement, j'aimerais rencontrer un maximum de gens, parce que ça veut dire que le chemin n'est pas terminé. Mais comme on dit, les rencontres sont plus belles quand elles ne sont pas prévues.
Est-ce qu'il y a quels sont les artistes dont tu te sens le plus proche sur la scène française aujourd'hui?
La scène française, oh mais j'aime tous les gens qui font de la musique. J'aime beaucoup Anis, ce que fait Anis par exemple. J'aime beaucoup ce que fait Mokhtar Samba, Khalil Shaheen, voilà. Et puis je viens de recevoir le dernier album de Lisa Dobby, que je trouve sincèrement merveilleux, parce que c'est le deuxième album, et c'est une artiste que je viens de découvrir et qui a participé sur mon projet. Mais j'aime vraiment le talent de cet artiste. J'aime toujours ce que fait Jimmy Johnson, qui est toujours à la pointe de ce qu'il fait. Là on sort un peu de la partie française. J'aime beaucoup Alexandre King, que j'ai rencontré, que j'ai rencontré sur scène et vraiment que j'ai hâte de revoir, parce que j'aime beaucoup, voilà. Et après les autres, je sais pas, j'ai encore du chemin à faire donc il fallait que je sorte un peu de ma boîte pour voir ce qui se passe autour, quoi. Mais j'aime beaucoup de gens absolument de ce qui se passe en France, parce que la scène française, pour moi, je la trouve très 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 riche. Elle demande juste à exploser, c'est tout.
Est-ce que tu as une conclusion à ajouter?
La conclusion, c'est quoi? C'est que partageons, vivons, et n'oublions pas que la meilleure façon d'être et le meilleur geste qui puisse garder et contenir les choses de la vie, c'est de ne pas arrêter de communiquer à travers la musique, et surtout communiquons en n'arrêtant pas cette ouverture.
Gracias.
c'est à Marcondes sur route 66, radio RDL, vous êtes en écoute.
Homme bleu par la naissance et bluesman par essence, sa musique lumineuse et solaire mêle avec harmonie et brio les plus pures influences du Chicago blues et les rythmes du désert saharien où il a vu le jour, comme si pour lui le Mississippi prenait sa source au fond d'un puits caché dans les dunes de sable et que son eau noire et fraîche abreuvait le voyageur du secret même de la musique. Il s'agit de Monsieur Amar Sundi qui, je l'espère, vous aura plu tout autant qu'il m'a touché lors de cette interview qu'il m'a accordée il y a de cela quelques jours. Alors je vous rappelle que son nouvel album s'appelle Sadaka. Les morceaux qu'on s'est passés étaient El Hatab, Old Blues. Auparavant, il y avait l'Alem en ouverture de l'entretien, c'est vrai. Juste après, nous avions écouté Amar Sundi accompagné par Joe Louis Walker avec Prisoner of Misery. Et l'entretien s'est conclu par deux titres. Le premier de ceux-ci était Hell Amanma avec Lisa Dobby et à l'instant Sadaka. Il avait également interprété durant cette séquence El Hatab en compagnie de Madame Purafe. Je vous rappelle que cette interview, vous pourrez bientôt la retrouver sur notre site internet sur la route 66. free.fr où vous pouvez déjà retrouver des centaines d'interviews de transcrites, des reportages, des photos, des vidéos, j'en passe et des meilleurs. Vous pouvez également nous écouter à travers le site internet de la radio rdl68.fr où de temps en temps j'essaye de donner des news de l'émission et puis surtout que je vous rappelle que les playlists de celle-ci, hein, s'il y a des morceaux qui vous touchent, si vous voulez en retrouver les références, les noms des albums, là aussi une seule adresse, le site de l'émission sur la route 66.free.fr, rubrique playlist. Amar Sundi sera bientôt en concert dans l'Est de la France, comme je vous le disais en ouverture du show. Ça sera les 7 mai au Dôme de Mutzig et le 8 mai au Kafkons d'Ensisheim. Encore plus de chaleur sur scène aux côtés d'Amar Sundi, c'est quelque chose qui ne se refuse pas, surtout à l'approche des beaux jours. Nous allons nous quitter en musique, comme toujours, avec quelqu'un que je vous ai fait découvrir il y a de cela deux semaines, c'est Monsieur Tascrew. Son nouvel album s'appelle Gravitas et je vous propose d'écouter tout de suite un morceau qui s'appelle 12 Step Woman. C'est un chanteur, guitariste, songwriter qui serait, paraît-il, issu du Québec. Alors, il se peut que nous ayons un petit peu d'avance sur le timing. Si c'est le cas, vous aurez peut-être l'opportunité d'écouter juste après le morceau de Task Crew, le générique d'émission qui est signé par le guitariste français Marc Bozonnet qui nous avait offert cette musique il y a de cela quelques temps. Donc, ce sera un plaisir pour nous de vous la diffuser dans sa quasi-intégralité. Ça s'appelle Pump and Blues. Mais tout de suite, place à Task Crew et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission qui sera encore une fois agrémentée par une interview, celle d'un artiste amérindien issu de la tribu Métis. C'est monsieur Wen Lavallee dont on vous a déjà parlé dans l'émission, mais cette fois-ci vous allez vraiment en savoir plus, vous connaîtrez tous les détails sur l'existence de cette personnalité complètement à part. Merci à toutes et à tous pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine avec encore plus de plaisir et encore plus de musique. Ciao.
shrinking bodies for all hours of the night. But it's how you say you need it right away that's got me worried. Things ain't right. 12-step, it just ain't working for you. You still drink the way you do. And now what's more, you got a new sponsor, 29 and 6'2". 12-step Wolverine. Where you gone in them high seas? Twelve-step woman, where you gone in them high seas? Hey, 12-step woman, why you stepping out on me? Yeah, your shoes they're made for walking, and now you're walking on me. Twelve-step woman. Step woman. Hey!